Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Kaléidoscope à vous écouter l'émission Au ras des rues, l'émission qui vous fait prendre de la hauteur. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, Antoine est avec nous.
Bonjour.
Benjamin.
Bonjour.
Marie-France.
Bonjour.
Et nous avons également deux invités, deux accordeurs, et on vous expliquera quelle est leur fonction. Donc Christine.
Bonjour.
Et Olivier.
Bonjour.
Bienvenue. Aujourd'hui, la thématique de l'émission va porter sur la transmission de savoir, les échanges entre habitants, les échanges de compétences, de savoir et la valorisation de ces savoirs également. Où est-ce qu'elles trouvent de la reconnaissance ? Enfin, où est-ce qu'ils trouvent de la reconnaissance à l'université, dans les associations, voilà, tout plein de questions qu'on va ouvrir ici avec plusieurs témoignages donc sur l'accorderie, les RERS, le réseau d'échange réciproque de savoir, mais aussi l'université populaire et d'autres choses qui se passent à l'université. Voilà, donc ça, on va essayer d'être assez complet. La programmation musicale sera une programmation spéciale Isa. Merci Isa, que j'ai croisé dans les couloirs et qui m'a fourni en musique pour cette émission. Je laisse la parole à Benjamin qui nous donne le son de cloche.
Un petit point peut-être, où écouter l'émission, où retrouver l'émission.
Tout à fait.
Donc l'émission s'écoute de 11h à midi. Le mercredi sur Radio Kaléidoscope 97 FM ou directement sur Internet en direct. La retransmission, c'est le vendredi de 19h à 20h. On peut aussi écouter en podcast sur le site du Crieur, donc www.lecrieur.net. Et il est possible de nous contacter sur l'adresse auraderu@lecrieur.net ou vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook auraderu RKS 97 FM.
Autant vous dire qu'on est connecté.
Et pardon, le site de Radio Kaléidoscope, radio-kaléidoscope.net.
Très bien. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires qu'on puisse revenir peut-être sur des sujets où on vous a paru trop léger, où on a manqué de pluralité. Voilà, n'hésitez pas, nous sommes ouverts à la critique.
Donc.
Oui, c'est vrai, mais bon, ça, on ne doit pas le dire. Donc, Benjamin, est-ce que, comme toutes les semaines, tu pourrais nous faire un point sur l'agenda ?
Alors, l'agenda du Crieur de la Villeneuve cette semaine, vendredi 11 décembre à 19h, une soirée conte au Baratin, le café associatif de la Villeneuve. Le Baratin, c'est au Patio, 97 Galerie de l'Arlequin. Et donc, pour cette soirée conte, ça sera avec Véronique Pedrero, qui fait partie de la compagnie Poussière d'Étoiles, Poussière d'Histoire, pardon. Toujours dans l'actualité, le mercredi 16 décembre 2015 à 13h30, une rencontre à la Régie de quartier, donc c'est 17 Galerie d'Arlequin, avec la traditionnelle tournée des pompiers pour la vente de leur calendrier. Donc chaque année, les pompiers et les habitants se rassemblent pour que les pompiers puissent se repérer dans la Galerie de l'Arlequin, l'immense Galerie de l'Arlequin, le dédale de la Galerie de l'Arlequin, pour voilà, vendre leur calendrier. Donc le rendez-vous est donné à 13h30 le mercredi 16 décembre. Et il faut être majeur, ou sinon il faut être accompagné d'une personne majeure si vous êtes mineur. On poursuit avec toujours le mercredi 16 décembre, cette fois-ci à 18h, et ça sera à la Maison des Habitants des Baladins, donc au 31 Place des Géants, une réunion sur l'université populaire, donc une université populaire qui est en cours de création sur le quartier de la Villeneuve. On va en parler un peu plus en détail dans la suite de l'émission. Donc cette réunion, le mercredi 16 décembre à 18h à la MDH des Baladins. Et puis aujourd'hui, ce mercredi 19 décembre 2015, si vous n'avez rien à faire à 18h, eh bien allez manifester contre l'état d'urgence. Un rassemblement est prévu à 18h devant la gare, l'état d'urgence qui est en place depuis 3 semaines, et les perquisitions inutiles se succèdent donc depuis 3 semaines.
On va pas avoir des problèmes de dire ça à la radio ?
Non. On on assume. Et c'est tout pour l'agenda de cette semaine.
Très bien, merci Benjamin. Alors Marie-France, tu me disais que tu avais quelques points d'actualité, notamment sur Jo Boulou.
Georges.
Oui, Georges, dont tu nous avais parlé la semaine dernière.
Voilà, d'ailleurs. On l'avait annoncé la semaine dernière, donc samedi 5 décembre de 10h toute la matinée à l'Union de Quartier, rue Lachenal, on recevait, on avait invité Pierre Frappa qui est journaliste, qui a été conseiller municipal dans une des municipalités du Bedou, donc c'est déjà, je ne sais pas si ça parle encore aujourd'hui. Et donc, il présentait son livre Jo Boulou, le métallo du Bedou. Jo Boulou ayant été aussi conseiller municipal enfin la municipalité du Bedou, pour 2 mandats sur 3. Et il était un leader de la CGT très connu, en particulier à Nerpic, où il a passé la plus grande partie de sa carrière comme ouvrier métallurgiste. Et il était en même temps donc un militant politique, d'abord au PSU, puis au PS, et également connu comme un militant des milieux chrétiens. C'était toute une époque avec Boulou qui a été revisité. Ses amis étaient là nombreux, en particulier des gens du village olympique qui l'ont bien connu comme militant sur le quartier, comme conseiller municipal également. Et donc, toute sa famille, ses frères et sœurs étaient là, ses enfants. Ses frères et sœurs, pour ceux qui étaient encore là, et des enfants. Et ça a été une évocation, en fait, à la fois du personnage qui était connu, je crois, à l'époque, et enfin jusqu'aux années 90 en tout cas. Et en même temps, à travers cette histoire-là, c'est le sous-titre d'ailleurs du livre, une histoire de Grenoble dans les pas d'un militant ouvrier. Je pense que peut-être qu'un jour ou l'autre, on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais c'est effectivement toute une époque de Grenoble, des années 50, 60, jusqu'aux années 90, qui a été évoquée. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui n'étaient pas là, je pense que le livre est intéressant en cela, puisque l'histoire, en général, peut expliquer aussi un peu le présent.
Ce qui serait intéressant, c'est d'inviter Mohamed, qui habite à la Villeneuve et qui a beaucoup milité à cette époque-là. Ils avaient fait un reportage qui s'appelle « Notre santé n'est pas à vendre ». Et justement, il y avait ce lien entre militants, CGT, aussi les militants chrétiens qui étaient en soutien aux Algériens. Enfin, voilà,
Mohamed a travaillé à Nerpic aussi.
Oui, ouais. Faudrait
Boulou a été aussi...
Il aurait des choses à raconter.
Il a été aussi responsable du travail auprès des immigrés dans la municipalité, en particulier, je crois qu'il était directeur de, ça devait être l'ODTI à l'époque, l'Office dauphinois pour l'accueil des travailleurs immigrés. Donc il y a eu pendant les mandats municipaux toute la réfection du quartier Trécloître, la restauration avec l'idée de laisser sur place les habitants qui étaient là. Trécloître, c'était effectivement en particulier, enfin il y avait beaucoup d'immigrés. Et puis après, tout un travail avec les immigrés âgés et avec aussi tout un travail au niveau de la gérontologie en général. Voilà. L'autre chose, c'est une annonce pour le samedi 12 décembre, donc samedi après-midi, de 17h30 à 19h30 au village olympique. Donc c'est l'Alliance citoyenne dont on avait invité ici Pauline, qui était venue nous expliquer ce que c'était que l'Alliance citoyenne, qui essaye de mobiliser les habitants des quartiers pour résoudre différents problèmes de logement, d'habitat, de la vie du quartier en général. Hein, ça concerne aussi l'éducation, les problèmes, l'avenir des jeunes. Et donc, ce sera à la salle, donc de 17h30 à 19h30, ce samedi 12 décembre, à une salle de réunion qui est en face du foyer des Écrins, 19 rue Christophe Turc. Et pour ceux qui connaissent la radio, c'est juste au-dessus de nos têtes, la salle qui est... Et nous, on est en dessous, à Radio Kaléidoscope.
Alors, prenez garde à ne pas traîner les chaises sur les sols, parce que s'il y en a qui enregistrent l'émission en dessous, ça va poser problème.
Ah, merci, on le signalera si j'ai l'occasion. Voilà.
Eh bien, merci Marie-France. On va tout de suite se faire une petite pause musicale avec donc un groupe québécois. Cette chanson s'appelle « Pissi au moins ». Et donc la suite de la phrase, c'est parce qu'on n'est pas sûr de comprendre, parce qu'ils ont quand même un sacré accent. Donc « Pissi au moins, il y en avait moins des pauvres crétins prêts à mourir pour la patrie, Kalachnikov et compagnie ». On écoute.
Pissi au moins, il y en avait moins, il y en avait moins de pauvres crétins prêts à mourir pour la patrie, Kalachnikov et compagnie, pour faire rouler l'économie.
Let's go! Des herbivores, des carnivores, et par la dévoile en or, aux endroits qu'on redevienne, l'instinctif, les souverains, c'est productif. Je ris au nez des vendeurs d'or, des exploiteurs anti-marché, distributeurs de cochonneries et de bonheur pour fabriquer. Allez, vous en va, la type en essai de filoche, et vous allez entendre le mot parler, vous en avez pour vendre, et vous devez vous dire, puisque le crié au pigeon, réussissez! Pissi au moins, y'en avait moins, y'en avait moins de pauvres crétins en train de se faire un vieux job au petit bureau qui se trouve en haut, la pyramide des affranchis. J'en ferai des petits doublins, 100 000 merci la vie. Ben oui, ça serait super pour aller faire du Kit Kodak, que dans la belle, que dans la belle télévision. Hey, 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 j'aurais l'air d'un. Ça monte, toutes les matins, ça tout content. Content, tout est bon. Si ressassait ma petite famille, ça serait parfait pour mon image. On sait donc où tirer la paix à travers de son maquillage. Puis si au moins, il y en avait moins. Il y en avait moins de pauvres crétins prêts à mourir pour la patrie. Kalachnikov et compagnie.
Vous êtes toujours sur Aura des rues, l'émission qui vous fait prendre de la hauteur sur Radio Kalidoscope. Donc aujourd'hui, je rappelle, le thème de l'émission, c'est transmission de savoir, valorisation des savoirs, échange de savoir ou de compétences. Donc on va se faire un petit chapitre sur l'université populaire. Est-ce que Benjamin, tu pourrais nous expliquer quel est ce projet ?
Oui, père Benjamin, raconte-nous une histoire. Alors, l'université populaire. Alors, quand on parle d'université populaire, on pense à la plus connue, celle de Michel Onfray à Caen. Dans l'imaginaire, c'est une université ouverte à tout le monde avec des cours dispensés par des profs, entre guillemets, compétents à n'importe qui. Eh bien, à la Villeneuve, une sorte d'université populaire est en cours de création. La première réunion a eu lieu en septembre 2014 avec tout un gros collectif d'associations qui sont impliquées dans le projet. Mais ce collectif défend une autre vision de l'université populaire qui partirait des compétences, en fait, des habitants et des associations, et des professionnels aussi, qui existent dans les quartiers populaires pour démocratiser ces savoirs, pour les ouvrir aux autres. Donc c'est une université populaire plus horizontale qui mêlerait en fait profs et élèves, et notamment par le biais de de tables rondes, de petits groupes. Donc un exemple pour y voir plus clair, ce sont dans les actions concrètes, c'est le cycle Pour comprendre qui a été mis en place à partir de janvier 2015 en fait. Donc le but c'était que les gens se parlent, échangent, débattent entre eux par le biais d'un système de tables rondes en présence d'un expert sur un sujet donné. Donc il y a eu tout un cycle de conférences-débats qui est toujours en cours. La première a eu lieu le 20 mars autour du thème des discriminations. Les invités étaient Abdelaziz Chambi, qui est donc un militant des quartiers populaires et de la coordination contre l'islamophobie, et de Michel Kokorev, qui est un sociologue des quartiers populaires. La deuxième a eu lieu le 21 septembre autour du thème de la mémoire, notamment de la mémoire de l'immigration. L'invité était Abdelhamid Benhamida, qui est un ancien prof d'histoire-géo à la retraite, et il présentait des photos du quotidien en Algérie pendant la guerre. Et donc la dernière en date a eu lieu le 20 novembre autour de la notion d'enfermement dans le quartier populaire avec la venue de Saïd Bouamama, qui est un militant et sociologue et membre fondateur du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, FUIQP. Donc ça a été, toutes ces trois rencontres pour comprendre ont été un grand succès à chaque fois, vu que la dernière il y avait entre 130 et 140 personnes. Et surtout les gens étaient très très heureux de ces rencontres, puisqu'ils venaient certes pour écouter l'invité, mais aussi pour débattre avec les autres personnes, les autres participants en fait à ces tables rondes. Et surtout ce sont les réunions publiques qui réunissent le plus large panel en fait d'habitants des quartiers populaires. C'est les réunions les plus mixtes en fait, on croise vraiment toutes les populations qui au niveau des âges et au niveau des origines sociales qui habitent dans les quartiers populaires. Donc ce cycle de conférences est la partie émergée de l'iceberg en fait, et donc il y a toute une réflexion qui est en cours sur la création d'une université populaire permanente à la Villeneuve. Donc notamment il y a un débat autour de la gouvernance, quelle gouvernance pour cette université populaire. Donc on pense à la création d'un comité de pilotage de l'université populaire qui réunirait des membres d'associations, des acteurs publics comme les bibliothèques ou les universités. Donc ce qu'il faut bien comprendre en fait, que c'est dans le fonctionnement de cette université populaire, ce sont des actions décentralisées. Chaque acteur proposerait en fait des méthodes d'intervention sur le terrain, ses propres méthodes d'intervention en fait. Par exemple, telle association fait des ateliers de rue, et bien organiser des ateliers de rue ouverts à tout le monde. Donc toute cette réflexion est en cours, on l'a dit dans l'agenda, la prochaine réunion arrive, elle aura lieu donc le 16 décembre 2015 à 18h à la Maison des Habitants des Baladins, c'est au 31 Place des Géants, et puis ça sera ouvert à tout le monde.
Merci Benjamin. Alors ce que je voulais aussi soulever, c'est qu'il y avait une question sur la valeur de formation que pourrait revêtir cette université. Quel diplôme peut-être elle pourrait donner aux habitants qui suivraient des cycles. Mais il y a tout un questionnement autour de la valorisation des savoirs qui sont des pratiques et des savoirs qui sont déjà en action sur le terrain, qui montent dans des objectifs en fait mis en commun, etc. Bon, donc je voulais vous parler, déjà peut-être faire un petit lien sur une université populaire qui existe déjà sur le quartier, qui se tient à la Bourse du Travail. Je crois que c'est une fois par mois et donc qui est organisée et tenue par Sud Énergie, qui est en fait principalement Sud EDF. Qui faisait un cycle notamment sur la question du temps de travail. Donc ils ont fait plusieurs conférences, c'était très intéressant. Et sur une réflexion sur la diminution du temps de travail pour la répartition du travail, l'embauche de nouvelles personnes, etc. Et puis je viens, oui, tu voulais intervenir.
Il y a eu aussi tout un cycle dans cette université populaire entre midi et deux, la Bourse du Travail, sur l'Amérique latine, sur le Venezuela, l'Équateur et ce qui se passe actuellement dans ces pays.
Ok. Et donc je viens à une expérience qui alimente en fait cette question de l'université populaire, et parce que donc on est dans un territoire où s'inscrivent la Cité des Territoires, qui réunit l'université donc de géographie et l'Institut d'urbanisme, et également l'École d'architecture de Grenoble. Ces trois universités qui sont inscrites dans le territoire, en fait, il y a eu toute une réflexion avec un groupe sur quel était leur rôle, pourquoi elles étaient là, et est-ce qu'elles avaient envie de suivre cette raison-là ou de détourner en fait leur présence et alimenter le débat citoyen, donner plus de voilà plus de retours, plus de connaissances sur ce qui se passe sur le territoire en termes d'aménagement urbain, de rénovation, d'analyse sociologique, etc. Donc, il y a eu un groupe qui s'est constitué autour de quelques professeurs de l'université de géographie, de l'IGA, Institut de géographie alpine, et deux associations, enfin donc Plany, qui travaille sur la Villeneuve avec en soutien aux ateliers populaires d'urbanisme sur les questions de planification urbaine participative, et Modus Operandi, qui est une association donc, qui travaille sur la notion de conflit comme facteur de transformation sociale. Voilà, donc ces trois acteurs, donc aussi avec des personnes des ateliers populaires d'urbanisme, se sont réunis et ont mené plusieurs échanges. Donc il y en avait un qui, il y avait une action, donc on a construit un banc qui s'appelait le Bandit, et où on allait sur l'espace public pour questionner des lieux un peu conflictuels. Notamment, il y avait eu justement un banc en béton qui avait été muré parce qu'il était utilisé par des dealers. Et donc, ça dérangeait les commerçants. Et en même temps, enfin voilà, il y avait toute une discussion qui s'est créée autour de ça. C'était très intéressant. Et justement, une rencontre, en fait, entre les différents usagers de ce lieu-là. Donc, il y a eu cette action-là. Il y a eu une action où on s'est installé devant le 50, qui était en démolition à l'époque, le 50 Galerie de l'Arlequin. Et voilà, donc c'était un moyen d'échanger, de s'asseoir dans les lieux où, normalement, on ne fait que passer et de créer la discussion. On a également fait un espèce de micro-trottoir d'un côté et de l'autre, donc dans le quartier, sur comment les habitants voyaient l'université, et de l'autre côté, comment les universitaires, les étudiants, les enseignants voyaient le quartier de la Villeneuve. Et tout ceci s'est conclu par une rencontre le 13 juin 2014 à la Cité des Territoires, où justement il y a eu la rencontre d'habitants et d'universitaires sur la question du rôle de l'université dans le territoire, sur comment les savoirs habitants pouvaient avoir leur place à l'université, sur comment créer la rencontre, notamment cette question que d'enfermer l'autre dans des représentations, donc de ne pas se rencontrer, que c'est quelque chose de difficile, et qu'il y avait la question de la relation, de la confiance qu'on se faisait, et qu'en fait, souvent, on était dans des rôles, et qu'on montrait qu'une facette de nous, suivant l'interlocuteur qu'on avait. Voilà, donc il y a toutes ces questions qui ont été ouvertes et qui sont en travaux. Il y a un petit livret qui a été produit là-dessus, qui est disponible, je ne sais pas, je vous dirai la prochaine fois. Voilà, on va se refaire une petite pause musicale, et ensuite on donnera la parole à nos invités. Ah oui, donc le livret s'appelle « Les tours d'en face, renforcer le lien entre université et Villeneuve ». Je pense qu'il est disponible à l'université, donc à la Cité des Territoires. L'adresse c'est... donc, avenue Marie-Rénoir, je ne sais pas quel
14,
est le numéro.
14 bis pour l'Institut de géographie, 14 pour l'Institut d'urbanisme.
D'accord.
Et je crois qu'il est disponible aussi avec l'association Planning, donc il suffit d'envoyer un mail à assoplanning.grésy.org et en fait, vous pourrez vous le procurer comme ça.
Ben, merci Antoine. Et voilà, je vous propose une petite pause musicale avant de commencer les interviews de nos invités. Alors, la musique que je vous propose, c'est un peu ardu. C'est du punk ska. Donc c'est un groupe anglais qui s'appelle Inner Terrestrial. Et la chanson s'appelle War. On écoute. Alors, donc, vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope à l'émission Aura des rues. Donc, on va laisser la parole à Antoine et à nos invités, les accordeurs Christine et Olivier.
Alors, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, vous êtes accordeur. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu ? Alors, qu'est-ce que ça signifie, être accordeur ?
Donc l'accorderie, c'est un système d'échange qui est basé sur le temps, où finalement voilà, tous les services qui sont proposés sont mis sur un pied d'égalité. Tu peux proposer des services de, je sais pas, d'aide à la comptabilité, de bricolage, d'aide aux devoirs, d'initiation à la danse, des sorties, la cuisine, enfin voilà, tout plein de différents services. Et donc chaque service, l'unité de mesure est le temps, et donc une heure de tel service égale une heure de tel autre service. Quoi. Donc le principe, c'est je t'aide par exemple pour te dépanner à réparer ta machine à laver. J'ai mis 2 heures, donc ça crédite mon compte de 2 heures, et toi ça débite ton compte de 2 heures. Et puis toi-même, tu vas au sein du réseau avoir peut-être besoin d'un autre type de service pour voilà, un peu de bricolage ou repasser tes chemises, voilà, peu importe le type de service. Et donc voilà, c'est un système comme ça qu'on dit de crédit mutuel. Donc au démarrage de l'inscription à la corderie, on te donne une quinzaine d'heures qui sont offertes. Et à partir de ces heures, bah, tu vas pouvoir voilà, les utiliser pour les échanger et soit voilà, proposer des services, soit demander des services.
D'accord. Et alors, tous les deux, vous êtes accordeurs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à l'intérieur de la structure qui sont là plutôt pour coordonner ?
Donc, il y a une animatrice qui est présente et qui... va essayer d'organiser aussi un peu des temps collectifs parce que c'est toujours compliqué d'échanger sans se connaître. Ça passe beaucoup sur par rapport à la confiance. Donc il y a des petits temps collectifs, notamment le troisième samedi de chaque mois, et puis d'autres temps d'initiation, de fêtes collectives ou de découvertes de cuisine qui sont organisés. Donc c'est des occasions pour rencontrer un peu les autres accordeurs et puis voir voilà, les services qui sont proposés et l'occasion de proposer des échanges.
D'accord. Et Christine, tu disais que tu donnais des heures pour le fonctionnement de l'association.
Voilà, donc moi lors d'un de ces temps de rassemblement, j'ai rencontré Pascaline, ça a permis de faire connaissance, de voir un petit peu quels étaient nos points communs et m'a proposé de faire partie de la commission finance. Chose que j'ai acceptée de suite, voilà, et ce qui fait que ça m'apporte des heures temps, et ça m'a permis après de faire appel à Darlionei, par exemple, pour poser une tringle à rideau, qui lui est allé demander des cours de français.
D'accord, donc c'est un cycle, on est vraiment dans une
économie.
C'est
un cycle, on ne rend pas à la personne qui nous a donné le service. Et ces temps collectifs sont importants de rencontrer les autres accordeurs, puisqu'on fait venir quelqu'un chez soi pour qu'il y ait cette confiance qui peut rebuter certains.
D'accord. Et comment vous avez découvert le réseau, tous les deux ?
Alors ?
Alors, moi, j'avais entendu parler donc de l'expérimentation au Québec des accorderies. Donc, ça vient du Québec dans les années 2000. Et donc il y a eu quelques années une accorderie qui s'est montée du côté de Chambéry, et donc on avait envie de monter ça sur Grenoble, donc voilà, avec plusieurs structures on a essayé d'avancer sur la mise en place d'une accorderie sur Grenoble. Donc ça fait depuis un an et demi qu'on existe. Aujourd'hui c'est à peu près 230 accordeurs, c'est voilà, plus de 800 heures qui ont été échangées. Il y a une grande diversité de personnes. C'est une occasion aussi de rencontrer des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer. C'est la richesse voilà, des rencontres.
Alors, il suffit d'habiter l'agglomération de Grenoble pour pouvoir y adhérer et de venir s'inscrire aux heures d'ouverture. Alors, c'est gratuit.
Il y a simplement l'idée de donner une heure par an à l'accorderie de contribution pour, je sais pas, pour l'accueil ou pour participer à des groupes de travail. Il y a une valorisation voilà, de l'engagement au sein de la structure, pareil, qui est basée en temps.
Il y a aussi des formations qui sont assurées par Pascaline ou Sophie, c'est-à-dire de nous apprendre à présenter l'accorderie.
D'accord. Et donc là, vous faites un exercice pour voir.
Voilà, c'est un exercice pratique.
Exactement. Du coup, l'accueil, c'est le mardi de 10h à 13h et le jeudi de 16h à 19h. Et c'est au 30 rue des Trembles, dans la zone des Peupliers.
Et alors, est-ce que c'était un choix de la corderie de s'installer dans les quartiers sud, entre Villeneuve, Village Olympique, Vigny-Musset ?
Oui, tout à fait. L'idée, c'est aussi de comment dire, on utilise voilà la base du temps pour échanger. On est dans une société qui utilise les euros pour pouvoir voilà échanger principalement. Et ben quand on n'en a pas, voilà c'est compliqué. Et pourtant, on a tous des savoir-faire, des richesses en soi qu'on peut partager. Donc l'idée, c'était un choix volontaire d'aller au plus proche des quartiers pour aller à la rencontre voilà des personnes pour les amener et les inviter à rejoindre la corderie.
Alors du coup j'enchaîne, je voudrais alimenter un petit peu la discussion en présentant le RERS, donc le réseau d'échange réciproque de savoir. Notamment, je fais le lien sur ce que tu viens de dire, Olivier, sur la valorisation en fait de choses qui nous paraissent peut-être parfois anodines et qu'on a chacun, et donc d'arriver à valoriser en fait les savoirs, mais du coup, de fait, les personnes aussi dans leur échange et ce qu'elles peuvent apporter aux autres, et ce côté gratuit. Et en même temps, qui n'est pas gratuit, enfin, qui est valorisable peut-être par d'autres...
Qui est mesuré.
Voilà,
qui, est mesuré.
Qui peut être mesuré. Donc, on écoute l'interview que j'ai fait de Zora, qui a travaillé 2 ans, qui aujourd'hui ne travaille plus dans le RERS, mais qui a travaillé 2 ans, donc était médiatrice au sein donc, de la maison des habitants du patio. Et elle nous explique un petit peu ce que c'est. On écoute.
Le RERS, ça veut dire réseau d'échange réciproque de savoir. Les gens s'apprennent des choses qui peuvent être larges, ça peut être des langues, ça peut être de la couture, ça peut être de la cuisine, c'est ouvert à tout public. C'est à partir, on va dire, de 8 ans, un enfant qui peut offrir quelque chose, il peut l'offrir jusqu'à 99 ans ou plus. C'est totalement gratuit. C'est sur inscription par contre. On a une charte qui explique un peu les réseaux, les choses à ne pas faire dans le réseau. Par contre, lors de l'inscription, on prend des coordonnées un peu personnelles pour appeler les personnes si on a quelque chose pour eux. Par exemple, une personne qui cherche du français, on l'appelle si on trouve quelqu'un qui peut lui offrir. La première chose qu'on fait, c'est de voir la personne, ce qu'elle recherche, essayer de l'aider si elle a des blocages dans les offres ou les demandes. Par exemple, une personne qui cherche du français, mais elle ne sait pas ce qu'on va offrir. On essaye de lui dire qu'elle c'est sûrement c'est quelque chose qu'elle peut offrir. Donc, on l'aide, c'est l'aide à la recherche de savoir. On l'inscrit. Ensuite, on a un site qui s'appelle Mona. Et nous, chaque personne, par exemple un offreur qui offre du français, on retrouve une personne, une demandeuse qui cherche du français. En général, on le met en lien. La mise en relation, c'est l'offreur et le demandeur qui se présentent, qui expliquent un peu ce qu'ils peuvent offrir. Et nous, on est là un peu pour la médiation. Ensuite, les échanges peuvent durer une semaine, des mois ou des années. Le réseau aussi, c'est un réseau de bénévoles. Le réseau fonctionne beaucoup avec les bénévoles. Nous, on est là en tant que médiateurs. Par la suite, après, on est absent. On se met en arrière pendant les échanges. Si besoin, par exemple, pour imprimer quelque chose, on est là. C'est un grand réseau qui a été créé aussi par Foresco. Ils font les assemblées générales. L'année dernière, c'était à Ivry. L'année d'avant, c'était à Grenoble. On est tous là, présents, voir l'évolution qu'on peut faire. Par rapport au théorique du réseau, il a été créé par Marc Hubert Suffrin et Claire Hubert Suffrin. Au patio, ça fait 8 ans, je pense, qu'il existe. Après, il y en a sur tous les secteurs. Et en dehors de Grenoble. Le seul réseau sur Grenoble qui est associatif, c'est sur les Barrières. Et après, c'est tous du CCS.
Les bénévoles, qu'est-ce qu'ils font dans le réseau ?
Nous, les bénévoles, c'est les gens qui les aident à améliorer le réseau. Ils ont des coordinations faites avec les animateurs réseau. Ils essayent de faire évoluer le réseau un peu, qu'ils se fassent un peu connaître. Il existe depuis longtemps, mais il y a aussi la corderie qui vient de se développer, qui n'est pas la même chose. Donc il y a des gens qui ne veulent pas apprendre forcément quelque chose, ils veulent plus que les gens leur fassent quelque chose, donc ils se redirigent vers la corderie qui est un échange de services.
D'accord. Et donc toi, tu as travaillé pendant un certain temps au RERS ?
J'en ai travaillé pendant 2 ans.
Et comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu as appris ? Enfin,
qu'est-ce que j'ai appris ? En fait, c'est magnifique parce qu'on voit des personnes qui évoluent. Par exemple, moi, j'ai une personne qui est en français, elle apprend le français depuis deux femmes. Ils apprennent le français depuis 2 ans ou 3 ans. Je vois leur évolution, je suis... Elles ne savaient pas lire, elles ne savaient pas écrire. Elles ont même des objectifs de créer un livre par rapport à leur histoire de vie. Donc, voir l'évolution des personnes, ça me touche en fait.
Et tu aurais des critiques un petit peu à...
Les critiques sur le réseau, j'en ai pas beaucoup. Il n'est pas assez connu en fait. Je vois dans le quartier de la Villeneuve, pas beaucoup de monde qui connaissent le réseau. Il y a aussi un autre point négatif, il manque un peu de jeunesse.
Bon, bah, merci pour cette petite explication et puis bonne continuation.
Merci.
Donc, voilà, c'était Zora qui a travaillé pendant 2 ans au RERS, au réseau d'échanges réciproques de savoir. Et du coup, ça me paraît important de souligner donc, la différence entre la mission que se donne la corderie et les RERS. C'est que d'un côté, avec les RERS, on est sur la notion d'apprentissage, d'incitation à échanger sur, de s'apprendre mutuellement. Et de l'autre côté, sur l'échange de services, de donner du temps, donc il y a une unité de mesure en temps. Et voilà. On va se faire une petite pause musicale avec un vieux morceau qu'on ressort derrière les fagots. On va écouter La rue qui est à nous parce que ça fait toujours du bien. Et donc on écoute Les mots.
Approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis s'attabanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous pour un mot. Un mot pour tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes. Des mots de tête pour les charlatans. Des jeux de mots pour les artistes. Des mots d'amour pour les amants. Des mots d'amour pour les copieurs. Des mots pour mots pour les capteurs. Des mots savants pour les emmerdeurs. Des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous pour un mot, un mot pour tous pour un mot.
Des mots rudes pour les poissonniers, et des mots jetés pour les pas bien beaux, des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de passe pour les méfiants, et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire
pour les enfants,
des mots tabous pour le taboulé.
Aujourd'hui, grand vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous pour un mot, un mot pour tous pour un mot.
Des mots croisés pour les retraités, et des petits mots pour les béguins,
des mots tendres pour les ordonnés.
Des mots fléchés
pour les Indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-pensions, des mots courants pour les rapides, et le mot de la fin pour la chanson.
Donc, on va continuer notre petite discussion sur justement ces réseaux d'échange, de services, de savoirs. Donc, je rappelle que nous avons 2 accordeurs ici présents, Olivier et Christine, qui nous font l'honneur d'alimenter notre émission en réflexion. Donc, on était sur. Bon, on peut peut-être lancer sur la discussion qu'on avait à l'instant sur donc comment sont peut-être les réseaux s'inscrivent au niveau national ou je sais pas.
Du coup, voilà, c'est des réseaux qui sont complémentaires. L'horaire, c'est plutôt sur un échange de savoir. Les accorderies sont plutôt sur des échanges de services. Donc, ça veut dire, voilà, j'ai, par exemple, je sais pas moi, ma machine à laver qui est en panne. D'un côté, ça va être plutôt pour m'apprendre à réparer la machine à laver. De l'autre côté, quelqu'un qui va venir et qui va réparer la machine à laver. Et souvent aussi, voilà, avec... on prend le temps de discuter, d'échanger. Voilà, l'idée, c'est d'être sur un échange de convivialité aussi, quoi. Mmh. Et après, souvent, je raconte une histoire aussi pour une petite fable pour expliquer cet enjeu, entre guillemets, à valoriser ce qui n'est pas compté dans notre société actuellement, quoi. Donc, c'est l'histoire d'un vieux paysan qui est avec sa famille et qui a une exploitation agricole. Et il permet à un apiculteur de poser quelques ruchers sur son exploitation agricole. Ils sont mis comme deal, bah, je te file 4-5 pots de miel contre un panier de fruits et légumes. Et puis le temps passe et le vieux paysan meurt et la famille fait appel au jeune fils aidé pour venir donner un coup de main sur l'exploitation agricole. Et il met le nez un peu dans les papiers, il essaye d'optimiser les rendements, et puis il voit cette histoire d'apiculteur, et là maintenant, le miel, il vient d'où? Il vient de ma production à moi. Moi, je paye bien ma matière première, mon eau, mes graines, ma terre. Pourquoi est-ce qu'il ne paye pas cette matière première qui est prélevée chez moi sur mon exploitation, sur mes fleurs, etc. Donc il va voir l'apiculteur et lui dit, bah écoute, en fait, j'ai fait le calcul, ce que tu me dois, c'est un tiers de ta récolte. L'apiculteur lui dit, bon, reviens demain, on en rediscute, quoi. Donc le jeune revient le lendemain. Et l'apiculteur lui dit, bah écoute, t'as raison, c'est vrai, je te dois bien un tiers de ma récolte, mais j'ai aussi fait le calcul du travail que faisaient mes abeilles à polliniser tes champs. Et si on devait prendre un ouvrier agricole pour, voilà, au pinceau, polliniser tes champs, bah ça reviendrait à un tiers de ta récolte à toi. Et donc, voilà, au final, ils en reviennent à discuter, et ils en reviennent à 4-5 pots de miel contre un panier de fruits et légumes. Tout ça pour dire que la société aujourd'hui, ce qui est compté par le PIB, par les échanges marchands, par la monnaie, l'euro, c'est la production de miel, la production de cire d'abeille, mais les externalités invisibles, ce qu'on ne voit pas, le soin aux enfants, le soin aux personnes âgées, le bénévolat, c'est pas compté. Et donc, c'est des projets, enfin, en tout cas, à la corderie, d'essayer de mettre en valeur ce qui n'est pas compté classiquement, quoi. Et de se poser la question de la richesse, de qu'est-ce qu'on compte, qu'est-ce qui compte.
Et puis de faciliter aussi les échanges pour qu'ils soient multiples et pas qu'ils rentrent moins dans des cahiers des charges
avec que ça soit de la convivialité et puis que ce soit pas avec une nécessité de forcément un échange marchand. Encore une fois, le problème de l'échange marchand, c'est que voilà, soit tu as des euros et tu en as et tu peux les utiliser pour échanger, et si tu n'en as pas, ben, tu t'endettes ou tu n'échanges pas, quoi.
Mais là, ça repose sur un système d'échange avec une mesure qui est le temps, en fait. Et pourquoi pas faire juste un système d'échange purement gratuit, en fait? Pourquoi pas juste de l'entraide sans rien attendre, en fait, en retour?
Alors, il y a d'autres dispositifs qui s'appellent, par exemple, les SEL, systèmes d'échange locaux, qui existent depuis encore plus longtemps. Qui, au début, donc, tu as, je sais pas, un réseau de 300 personnes comme ça qui échangent. Au bout d'une dizaine d'années, les gens se connaissent plutôt bien. Ils avaient une unité de mesure d'échange basée sur le temps. Et au bout d'un moment, ils se disent, bon, bah, on se connaît suffisamment bien, il n'y a pas besoin de compter. Et en fait, les échanges se sont effondrés. Parce que y a ce besoin, entre guillemets, de un peu savoir où on en est, d'intermédiaire. C'est un intermédiaire dans l'échange, voilà, pour faciliter et dynamiser ces échanges-là, quoi.
Et j'avais une question, est-ce que le prêt d'objets, c'est possible avec la corderie, ou c'est vraiment...
Pour l'instant, non.
Non, sur les objets, il y a du coup d'autres structures ou d'autres dispositifs, quoi. Après, bon, bah, dans la rencontre, des fois, voilà, ça peut avoir lieu de se donner un coup de main, quoi, de passer une info. Mais c'est pas l'objet, on est vraiment sur l'échange de services.
Et je me demandais sur la réflexion sur l'origine de l'argent, comment elle facilite les échanges, etc. Vous avez ces réflexions-là à l'intérieur du réseau, ou c'est des choses qui étaient en amont et puis maintenant dans les réseaux on n'en reparle pas?
Alors c'était des choses qui étaient plutôt en amont dans les réflexions. Et petit à petit, alors après là on est plutôt sur des besoins plus concrets là de liens avec les, par exemple, des groupements d'achat ou ce genre de choses, de s'interroger de comment on consomme. Et donc petit à petit, ouais, de se re-questionner en lien avec voilà, d'autres acteurs sur le territoire qui posent aussi cette question-là de qu'est-ce qu'on compte, qu'est-ce qui compte, quoi, et de, voilà, de la richesse au sens large. Quoi.
Moi, j'avais une question par rapport à... Donc la Corderie, c'est une association, le RERS, on en a parlé, c'est quelque chose d'une structure publique, en fait.
Non. Le RERS, c'est un réseau donc, qui est au niveau national, qui est un réseau associatif. Mais sur Grenoble, il a la particularité d'être, en fait, que les médiateurs, qui donc travaillent tous les jours dessus, soient des salariés du CCAS, sauf pour, pour un point du RERS qui est... au quartier Chaurier-Berria, parce qu'en fait, il y en a, comme elle l'expliquait, Zora, dans tous les secteurs de Grenoble et hors Grenoble, dans certaines communes. Et en fait, après, c'est un réseau de bénévoles et qui font évoluer la structure, la communication, l'organisation des réseaux au niveau national. Voilà.
Ça a diffusé voilà, chez les travailleurs sociaux. Enfin, au début, c'était associatif. Et puis, ça s'est pas mal diffusé comme quoi c'était vraiment intéressant pour les médiateurs et les travailleurs sociaux. Et donc, du coup, ça a réémergé du côté des centres sociaux. Quoi.
D'accord. Mais je veux dire, économiquement, par rapport à la corderie, comment ça s'équilibre, en fait?
Alors, du coup, on a des sources de financement, puisque donc il y a une animation, une animatrice et une coordinatrice, donc, dont on a parlé tout à l'heure, hein, Sophie et Pascaline. Et pour nous, voilà, c'est important, pour, notamment sur l'animation, d'aller au contact des personnes qui sont voilà, les plus éloignées de ces circuits, de ces réseaux-là, qui n'ont pas forcément entendu parler de ça, mais qui en ont voilà, potentiellement besoin, quoi. Et donc, on travaille sur des financements avec la Fondation Massif, la CAF, et puis les collectivités, je crois qu'il y a la Métro et la Région Rhône-Alpes. Donc voilà, pour pouvoir avoir un financement suffisant pour payer cette animation et cette coordination.
D'accord.
Et est-ce que ce genre de réseau a vocation à remplacer petit à petit tout le travail salarié?
Alors après, ça c'est toujours la problématique qu'on entend entre les bénévoles ou les salariés, c'est ça? Est-ce que les bénévoles piquent le travail
non,
de
non,
salariés?
Non, dans le sens au niveau sociétal, est-ce que c'est un premier pas vers un changement d'économie plus global d'enrayer le pouvoir de l'argent tel qu'il existe aujourd'hui? Est-ce que...
Il y a une charte?
Oui, vas-y.
Non, vas-y.
Comme tu disais, une charte d'engagement, une charte des valeurs qui sont portées. Après, forcément, ça questionne sur cette question de l'argent, de notre rapport à l'argent, et de comprendre comment fonctionne concrètement ce système de crédit mutuel. Imaginons on part tous à zéro, je te rends service, ça augmente, toi ça descend, et puis à un autre moment ça sera l'inverse pour toi avec d'autres acteurs. Et ça c'est un système en soi qui est intéressant et qui peut être promu sur d'autres plus largement, quoi.
Mais il faut savoir que ceux qui proposent leurs services ne sont pas des professionnels et ce doit être des services ponctuels seulement. Donc il n'y a pas concurrence avec d'autres personnes. Et si on fait appel pour un service de bricolage, c'est un bricolage que l'on n'aurait pas pu s'offrir pour certaines familles. Donc ça leur améliore quand même leur qualité de vie.
La charte vraiment dit que tu ne peux pas citer plombier. Proposer des services de plomberie. Il n'y a pas de publicité à l'extérieur. Les offres, elles circulent à l'intérieur du réseau. On ne fait pas de concurrence déloyale par rapport à diverses entreprises.
Oui, parce que pour connaître les offres, il faut être membre et aller sur l'intranet du site qui est proposé par la corderie.
Eh bien...
Moi, j'ai une question. Là, on oppose un peu argent et temps, en fait. Mais avec le système avec les euros, il y a une certaine redistribution en fait des richesses par le biais les prestations sociales, par exemple. Mais avec le temps, comment, avec la mesure temps, comment se fait cette redistribution de richesses? Parce qu'un retraité, il a plein de temps libre à offrir, donc lui, il pourra se permettre voilà, de s'offrir des, un savoir ou un service, et après pouvoir facilement le redistribuer. Mais une femme, une femme seule avec enfant, elle n'aura pas forcément le temps, en fait, elle, de rendre service à d'autres. Ouais, donc bah, comment se fait cet équilibrage?
Bah, par exemple, moi, j'ai ma famille qui a des soucis de santé, et c'est tout à fait possible que, du coup, moi, je donne des heures, et que ces heures-là, ensuite, je les transmette pour qu'il y ait un soutien vis-à-vis de ma famille. Tu peux donner tes heures dans le cadre, notamment, voilà, des familles. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de redistribution ou de TVA, voilà, classiquement, quoi. Mais il y a ce côté aussi de pouvoir donner du temps au sein de la corderie et d'être valorisé sur ce temps-là, quoi. Et sur des actions qui peuvent être aussi en direction de personnes voilà, qui auraient des besoins. Donc on utilise finalement un peu un autre système, quoi.
Ben, merci à vous deux, en tout cas, d'avoir participé à cette petite émission.
Merci. Et donc on va clore notre émission ici. Deux petits points d'information. Donc on remercie Pato à la technique, Patricio qui donc à chaque fois est là pour faire le lien de toute cette émission. Et bien entendu, je voudrais souligner le fait que la semaine prochaine, nous aurons une nouvelle enceinte qui ne grésille pas dans le local de 180 watts, comme nous l'a annoncé Patricio aujourd'hui. Et enfin, pour vous donner l'eau à la bouche, parce que ça nous
concerne pas. Du coup, l'émission sera encore de meilleure qualité.
Voilà, c'est ça. On ne sera pas dérangé par ce grésillement incessant. Et donc, pour vous donner l'eau à la bouche, moi, personnellement, je vous présenterai une petite émission sur le côté Place des Géants et ce qui se passe autour et dans le nouveau Collège des Saules. Merci à tous.
Et à la semaine prochaine.
Merci.
Au revoir.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine. Yeah.